Chapitre 45. Le Raphaël entre en dégiration dans le système de Sol Draconi Septem. Contrairement aux explications reçues par le père capitaine de Soya et par les autres personnes qui voyagent à bord de vaisseaux Archange, le système de propulsion n'est pas une simple modification du vieux réacteur Hawking qui a défié la barrière de la lumière avant l'égir. Le propulseur du Raphaël est une sorte d'imposteur. Quand il atteint des vitesses préquantiques, il envoie un signal dans un médium, autrefois appelé l'espace qui lit. Une source d'énergie extérieure déclenche alors un dispositif à distance qui crée une disruption dans un plan secondaire du médium, déchirant la texture spatio-temporelle. Cette disruption est immédiatement fatale à l'équipage humain, qui meurt dans la douleur. Les cellules éclatent, les os sont pulvérisés, les synapses s'enrayent, les boyaux se vident, les organes se liquéfient. Mais ces détails sont oubliés à jamais. Le souvenir des dernières millisecondes d'horreur et de mort est effacé durant la reconstruction et la résurrection opérée par le cruciforme. À présent, le Raphaël entame sa trajectoire de freinage à l'approche de Sol Draconi Septem, tandis que sa très réelle tuyère à fusion ralentit le vaisseau jusqu'à 2G de poussée. Dans leur couchette d'accélération de la crèche de résurrection de bord, le père capitaine de Soya, le sergent Grégorius et le caporal Key gisent morts, leurs corps déchiquetés, pulvérisés une deuxième fois parce que le vaisseau économise automatiquement son énergie en s'abstenant d'initialiser ses champs internes jusqu'à ce que la résurrection soit en cours. Outre les trois humains, il y a un autre visage à bord. Radamante Némès a soulevé le couvercle de sa crèche de résurrection et reste sur sa couchette, son corps compact déformé mais non endommagé par la terrible décélération. Conformément au programme standard, les supports de vie de la cabine centrale sont désactivés. Il n'y a pas d'oxygène, la pression atmosphérique est trop basse pour qu'un humain puisse y survivre sans combinaison spatiale, et la température est de moins 30 degrés Celsius. Némès est indifférente à tout cela. Dans son survêtement rouge, elle demeure allongée sur la couchette et surveille les moniteurs en posant de temps à autre une question au vaisseau qui lui répond par le circuit à fibres. 6 heures plus tard, avant que le champ de confinement interne s'active et que les corps soient préparés dans leur sarcophage complexe, pendant que la cabine est encore sous vide virtuel, Némès se lève. Ses épaules fendent une gravité de 200 G sans qu'elle sourcille. Elle va jusqu'à la cabine de navigation avec sa table des cartes. Elle affiche une carte de Sol Draconi Septem et trouve rapidement l'ancien parcours du Tétis. Elle ordonne au vaisseau de superposer une vue à grande distance et passe les doigts sur l'image holo des rainures de glace, des dunes de Sastrugi et des crevasses gelées. Le haut d'un immeuble perce le glacier atmosphérique. Elle vérifie les coordonnées sur la carte. L'endroit se trouve à 30 km de la rivière recouverte. Au bout de 11 heures de freinage, le Raphaël se met en orbite autour de la sphère blanche brillante de Sol Draconi Septem. Les champs internes se sont depuis longtemps activés. Les équipements de vie sont totalement opérationnels, mais Radamante Némès n'en tient pas plus compte que de la gravité ou du vide. Avant de quitter le vaisseau, elle jette un coup d'œil au moniteur de la crèche de résurrection. Elle a 2 jours devant elle avant que De Soya et ses hommes commencent à remuer sur leur couchette. Elle s'installe dans le vaisseau de descente et établit une liaison par fibre entre son poignet et la console. Puis elle ordonne la séparation et guide le vaisseau dans l'atmosphère à travers le Terminateur sans consulter aucun des instruments de bord. 18 minutes plus tard, le vaisseau de descente se pose à la surface de la planète, à moins de 200 mètres de la tour partiellement enfouie dans les glaces. Le soleil brille sur le glacier en terrasse, mais le ciel est d'un noir mat. Aucune étoile n'est visible. Bien que l'atmosphère locale soit négligeable, les systèmes thermiques massifs de la planète, d'un pôle à l'autre, créent des vents incessants qui charrient des cristaux de glace à 400 km à l'heure. Ignorant les combinaisons spatiales et atmosphériques pendues dans le sas, Radamante Némès commande l'ouverture de l'Iris. Sans attendre que l'échelle se déploie, Elle fait un saut de 3 mètres pour se rétablir à la surface sous une gravité de 1,7 G. Des aiguilles de glace la frappent à la vitesse des projectiles d'un pistolet à fléchettes. Elle active une source interne qui dresse un champ biomorphe à 0,8 mm de sa peau. Aux yeux d'un observateur extérieur, cette femme trapue aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux d'un noir mat se transforme soudain en une sculpture de vif argent miroitant à forme humaine qui court sur la glace à la vitesse de 30 km à l'heure, s'arrête devant l'immeuble, ne trouve pas d'entrée et fracasse de son poing nu un panneau de plastacier. Elle entre par la déchirure, marche souplement sur la glace jusqu'à la cage d'ascenseur et en éventre la porte branlante. Il y a longtemps que les cabines d'ascenseur se sont écrasées tout en bas. Elle s'avance dans la cage d'ascenseur et s'y laisse tomber. C'est une chute vertigineuse dans le noir à la vitesse de 33,15 mètres par seconde. Quand elle voit de la lumière, elle agrippe au passage une poutrelle d'acier pour s'arrêter. Elle a déjà atteint la vitesse terminale de plus de 500 km à l'heure et décélère à zéro en moins de 3 centièmes de seconde. Némès quitte l'ascenseur pour s'avancer dans la pièce. Elle enregistre au passage la présence des meubles, des lanternes et des rayonnages pleins de livres. Le vieillard est dans la cuisine. Il lève la tête quand il entend son pas rapide.
« Roll ?» demande-t-il. « Une ?»
Tout juste. Fait radamant Némès en insérant deux doigts sous le col du vieux prêtre pour le soulever du sol. « Où est la fille ?» demande-t-elle à voix basse. « Où sont-ils tous ?» Chose surprenante, le prêtre aveugle ne hurle pas de douleur. Ses vieilles dents jaunies sont serrées et ses yeux aveugles fixent le plafond. Mais il se contente de répondre
« Je ne sais pas !»
Némès hoche la tête et le laisse retomber par terre. Puis elle s'assoit sur sa poitrine, pose l'index sur son œil et injecte un microfilament chercheur dans son cerveau. Le chercheur trouve son chemin vers un point spécifique du cortex. « Allons, mon père, » murmure-t-elle. « Essayez encore. Où est la fille? Qui est avec elle? Où se trouve-t-il ?» Les réponses commencent à filtrer dans le microfilament sous la forme de rafales codées d'énergie neurale agonisante. Chapitre 46. Nos journées en compagnie du père Glaucus demeurent mémorables par les conversations, le confort et le répit qu'elles nous apportèrent après tant de jours de fuite précipitée. Ce sont surtout les conversations qui me restent dans la tête. Peu avant le retour des Chichatuk, j'eus l'occasion d'apprendre l'une des raisons pour lesquelles Abétik avait tenu à m'accompagner dans mon voyage.
« Avez-vous des frères et sœurs, Abétik ?»
lui demanda le père Glaucus, qui refusait toujours de s'adresser à l'androïde par son titre habituel. À mon grand étonnement, ce dernier répondit par l'affirmative. Mais comment était-ce possible? Les androïdes étaient conçus, biofabriqués et assemblés à partir de composants génétiques produits dans des cuves, comme des organes destinés à la transplantation. C'est du moins ce que j'avais toujours cru. À l'époque de ma biofabrication, nous expliqua-t-il, les androïdes étaient clonés par colonies de 5, comprenant généralement 4 mâles et une femelle.
« Des quintuplés !»
murmura le père Glaucus dans son fauteuil à bascule.
« Vous avez donc 3 frères et une sœur. »
« C'est exact, » fit l'homme à la peau bleue. « Mais vous n'avez quand même pas... » Je m'interrompis pour me frotter le menton. Je m'étais rasé, cela me semblait plus civilisé, et le contact de ma peau lisse avait quelque chose de déroutant.
« Vous n'avez pas grandi ensemble, je suppose, » repris-je.
« Les androïdes étaient... »«
Biofabriqués à l'état adulte ?» demanda Abétik avec le même petit sourire. « Pas du tout. Mais notre processus de croissance était fortement accéléré. Il nous fallait environ 8 années standard pour arriver à maturité. Il y avait cependant une période de jeune âge et d'enfance, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les coûts de biofabrication ont été jugés assez prohibitifs.
« Comment s'appellent vos frères et votre sœur ? »
demanda le père Glaucus. Abétique referma le livre qu'il était en train de feuilleter.
La tradition voulait que l'on nomme les membres de chaque quinte dans l'ordre alphabétique, expliqua-t-il. Les autres s'appellent Antibes, Coressonne, Daria et Évic.
Votre sœur s'appelait Daria ?
Demanda Aîné.
Oui.
Comment s'est passée votre enfance ?
Elle fut principalement consacrée à l'éducation et à l'entraînement, ainsi qu'à la définition des paramètres de service.
Aîné était couché sur le tapis, le menton dans les mains.
Vous alliez à l'école ? Vous jouiez ?
Notre éducation se faisait à la biofabrique. Mais le gros de nos connaissances nous a été transmis par ADN,
déclara l'homme chauve en regardant Aîné.
Et si par jouer vous entendez passer du temps à me détendre en compagnie de mes frères et de ma sœur, la réponse est oui.
Que sont devenus les autres ?
Demanda Aîné. Abétique secoua lentement la tête.
À l'origine, nous devions servir ensemble. Mais nous avons été séparés peu après notre premier emploi. J'ai été racheté par le royaume de Monaco en exil et expédié sur Asquith. On nous avait expliqué, à l'époque, que chacun de nous était appelé à servir dans une région différente du Retz ou des confins.
Et vous n'avez plus jamais entendu parler des autres ?
Non. Il y avait un grand nombre de travailleurs androïdes affectés au chantier de la Cité des Poètes, à l'époque du transfert de la colonie du roi William XXIII sur ce monde. Et la plupart avaient servi sur Asquith avant moi. Mais personne n'a vu mes frères ou ma sœur pendant leur transport.
À l'époque du Retz, il devait pourtant être facile d'explorer les autres mondes par distance ou par l'infosphère, murmurai-je.
C'est exact, fit Abétique. Mais n'oubliez pas que non seulement la loi, mais aussi leurs propres inhibiteurs ADN, interdisaient aux androïdes de se déplacer par distance ou d'accéder directement à l'infosphère. Et la biofabrication ou la possession d'androïdes furent interdites dans toute l'hégémonie peu après ma création.
On vous a donc utilisé dans les confins, sur des mondes lointains comme Hyperion.
Exactement, Achandimion.
Je pris une inspiration profonde.
C'est pour cette raison que vous avez voulu entreprendre ce voyage ?
Demandai-je.
Pour essayer de retrouver vos frères ou votre sœur ?
Il sourit.
J'aurais une chance infime de retrouver l'un de mes frères clonés à Chandimion. Ce serait non seulement une coïncidence improbable, compte tenu qu'il n'est pas rationnel d'espérer qu'ils aient pu échapper, comme moi, à la destruction massive des androïdes qui a suivi la chute, mais...
Il écarta les mains comme pour expliquer la notion de déraisonnable. Ce dernier soir, avant le retour de la Horde, j'entendis Aîné discuter pour la première fois de sa théorie sur l'amour. Cela commença lorsqu'elle voulut nous poser des questions sur les Kantos de Martin Silenus.
« Très bien, »
fit-elle.
« Vous dites que ce livre a été mis à l'index sur tous les mondes administrés par la Pax. Mais de nombreux territoires étaient encore libres quand il a été publié. Quel accueil a-t-il reçu ? Cela correspondait-il aux attentes de mon oncle ?
Je me souviens d'avoir discuté des Kantos au séminaire, nous dit le père Glaucus en gloussant. Nous savions qu'il était interdit, mais cela ne faisait que donner un peu plus de piquant à sa lecture. Nous avions de la réticence à lire Virgile, mais nous nous arrachions le seul recueil écorné en notre possession de ces vers de Mirliton.
C'était vraiment des vers de Mirliton ?
Demanda Aîné.
J'ai toujours considéré mon oncle Martin comme un grand poète, mais c'est seulement parce qu'il l'affirmait lui-même. Ma mère le traitait d'emmerdeur.
Oh, les poètes sont souvent les deux à la fois,
déclara le père Glaucus avec un nouveau gloussement.
En fait, je crois que c'est le cas le plus fréquent. Si mes souvenirs sont exacts, la plupart des critiques ont très mal accueilli les Kantos dans les rares cercles littéraires qui existaient encore avant d'être absorbés par l'Église. Certains le prirent au sérieux, mais en tant que poète et non en tant que chroniqueur des événements qui se déroulèrent sur Hyperion juste avant la chute. La plupart se gaussèrent de l'apothéose d'amour qui marque la fin du second volume.
« Je m'en souviens, » murmurai-je. Le personnage de Sol, le vieil érudit dont la fille prenait de l'âge à rebours, découvre que l'amour est la réponse à ce qu'il appelait le dilemme d'Abraham.
« Je me souviens d'un critique hargneux qui avait écrit un article sur ce poème dans notre capitale,
fit le père Glaucus en riant.
Il citait un graffiti vu sur le mur d'une vieille cité en ruine de l'ancienne terre, avant l'égire. Si la réponse est l'amour, quelle était la question ?»
Aîné se tourna vers moi comme pour quêter une explication.
« Dans les cantos, déclarai-je, le personnage de l'érudit semble découvrir que la chose que le centre des IA appelait l'espace Kili est l'amour. Cet amour représente une force de base de l'univers, au même titre que la gravité et l'électromagnétisme, ou encore les interactions fortes et faibles. Dans le poème, Sol s'aperçoit que l'intelligence ultime du centre ne sera jamais capable de comprendre que l'empathie est inséparable de cette source, de ce que l'on appelle l'amour. Le vieux poète décrit l'amour comme une impossibilité subquantique transportant les informations de photon à photon.
Téliard aurait été d'accord, estima le père Glaucus, mais il aurait sans doute formulé différemment la chose.
Quoi qu'il en soit, déclarai-je, la réaction quasi universelle au poème, d'après Grande Dame, fut de dire qu'il était affaibli par trop de sentimentalité. Aînée secoua la tête.
L'oncle Martin avait raison, dit-elle. L'amour est l'une des forces de base de l'univers. Je sais que Sol Weintraub était réellement persuadé d'avoir découvert cette vérité. C'est ce qu'il a dit à maman avant de disparaître avec sa fille à l'intérieur du sphinx pour aller à la rencontre de l'avenir de l'enfant.
Le prêtre aveugle cessa de se balancer et se pencha en avant, les coudes appuyés sur ses genoux osseux. Sa soutane rembourrée aurait pu avoir l'air comique sur quelqu'un de moins digne que lui.
« Est-ce plus compliqué que de dire que Dieu est amour ?» demanda-t-il.
« Oui !»
s'exclama Aînée. Elle se tenait à présent devant la cheminée. Elle avait l'air beaucoup plus âgée, comme si elle avait grandi et mûri durant les mois que nous avions passés ensemble.
Les Grecs, quand ils voyaient la gravité à l'œuvre, l'expliquait comme l'un des quatre éléments, la Terre en train de se précipiter pour retrouver sa famille. Ce que Sol Weintraub a entrevu, lui, c'était un fragment de la physique de l'amour. L'endroit où il réside, la manière dont il fonctionne, la manière dont on peut le comprendre et le canaliser. La différence entre Dieu et amour et ce que Sol Weintraub a vu, ce que mon oncle Martin a voulu décrire, c'est la différence entre l'explication de la gravitation telle que la concevaient les Grecs et les équations d'Isaac Newton. La première représente un stade intermédiaire habile, tandis que la seconde considère la chose elle-même.
Le père Glaucus secoua la tête.
« Vous semblez faire de tout cela quelque chose de quantifiable et de mécanique, ma chère. »«
Pas du tout, »
riposta Aînée d'une voix étonnamment ferme.
De même que Téliard savait, comme vous venez de l'expliquer, que la notion d'univers évoluant vers une conscience plus large ne pouvait être quelque chose de purement mécanique, et que ses forces n'étaient pas uniquement objectives, comme la science l'a toujours supposé, mais qu'elles découlaient de la passion absolue du divin, de même, la compréhension de la partie amour de l'espace qui lit ne saurait être mécanique. D'une certaine manière, il s'agit de l'essence même de l'humanité.
Je réprimais mon envie de rire. Tu insinues qu'il faudrait un nouveau Newton pour expliquer la physique de l'amour? Pour nous fournir ses lois de la thermodynamique et ses règles de l'entropie? Pour décrire les équations de l'amour?
Oui,
fit Aînée les yeux brillants. Le père Glaucus était toujours penché en avant, ses deux mains agrippant fermement ses genoux.
Êtes-vous cette personne? « Jeune aînée d'Hyperion. »
Elle se détourna vivement et s'éloigna de la lumière du foyer pour se rapprocher des ténèbres et de la glace qui nous enserrait derrière les panneaux de verre intelligents. Puis elle revint lentement vers le cercle de chaleur où nous étions.
Elle avait la tête courbée et ses cils étaient baignés de larmes. Quand elle parla, ce fut d'une voix douce, presque tremblante.
« Je crois bien, oui. Ce n'est pas que je le désire, mais je suis cette personne. Où je pourrais l'être, si je survis ?»
Cette réponse fit naître un frisson qui se propagea du haut en bas de ma colonne vertébrale. Je regrettais que nous ayons lancé cette conversation.
« Voulez-vous nous le dire maintenant ?»
demanda le père Glaucus. Sa voix était simplement implorante, comme celle d'un enfant. Aîné releva la tête, puis la secoua négativement.
« Je ne peux pas. Je ne suis pas prête. Désolé, mon père. »
Le prêtre aveugle se laissa aller en arrière. Il avait l'air soudain beaucoup plus vieux.
« Ce n'est pas grave, mon enfant, » dit-il. « Je vous ai rencontré. C'est déjà quelque chose. »
Aîné s'avança vers le vieil homme dans son fauteuil à bascule et se blottit silencieusement contre lui durant une longue minute. Cushiat et son groupe furent de retour le lendemain matin, avant notre réveil. Durant la période que nous avions passée en leur compagnie, nous nous étions presque habitués à leur rythme, qui consistait à ne dormir que quelques heures d'affilée entre d'interminables marches à travers les galeries obscures et glacées. Mais chez le père Glaucus, nous avions 8 heures de nuit durant lesquelles nous diminuions simplement l'éclat des lampes allumées dans les chambres. J'avais remarqué que nous étions beaucoup plus souvent fatigués sous une gravité de 1,7 g. Les Chitchatuks n'aimaient pas trop pénétrer au cœur de l'immeuble. Ils restèrent donc devant la fenêtre ouverte qui donnait sur la galerie de glace et émirent une variation feutrée de leur ululation jusqu'à ce que nous les entendions. Nous nous habillâmes alors en hâte et descendîmes les accueillir. Ils étaient de nouveau 23. Le père Glaucus ne leur demanda pas où ils avaient trouvé leur nouveau membre, une femme, et nous ne devions jamais l'apprendre par la suite. Quand j'entrai dans la pièce, le spectacle qui m'attendait me frappa et demeura gravé par la suite dans ma mémoire. Les Chitchatuks massifs, accroupis dans leur posture habituelle avec leurs épaisses robes de spectre, entouraient le père Glaucus et Cushiat qui bavardaient à voix basse. La soutane épaisse du prêtre s'étalait autour de lui sur la glace comme une corolle noire, et les lanternes bourrées de tablettes de combustible faisaient briller les cristaux à l'entrée de la caverne de glace, tandis que derrière les panneaux de verre intelligent, les ténèbres froides pesaient sur nous. Depuis longtemps, nous avions prié le père Glaucus de se faire notre interprète dans la formulation, ou la reformulation, de notre demande d'aide aux indigènes pour transporter notre radeau en aval, et il choisit ce moment pour interroger les Chitchatuks à ce sujet. Ils lui répondirent tour à tour, mais nous comprîmes que chacun lui disait à peu près la même chose. Il se déclarait disposé à faire le voyage. Ce n'était pas une expédition de tout repos. Cushiat nous confirma qu'il existait des galeries qui descendaient jusqu'au fleuve au niveau de la deuxième arche, avec environ 200 mètres de dénivellation par rapport à l'endroit où nous nous trouvions actuellement, et qu'il y avait une étendue d'eau libre à l'endroit où le courant passait sous le portail d'Istrance, mais il y avait un hic. Il n'existait pas de passage continu entre l'endroit où nous étions et la deuxième arche qui se trouvait à 28 km au nord.
« Il y a une question que je voulais poser, » déclara Aîné. « Quelle est l'origine de toutes ces galeries? Elles sont trop régulières pour être des fissures ou des crevasses naturelles. Est-ce que ce sont les Chitchatuks qui les ont creusées dans le passé ?»
Le père barbu regarda l'enfant avec une expression d'incrédulité.
« Vous voulez dire que vous ne le savez pas ?»
Il se tourna pour adresser 3 syllabes aux Chitchatuks. Leur réaction fut presque explosive. Ils se mirent à parler tous ensemble avec des phrases entrecoupées d'aboiements que nous avions appris à interpréter comme des rires.
« J'espère ne pas vous avoir offensé, ma chère, » murmura le vieux prêtre.
Il souriait, son regard aveugle tourné dans la direction d'Aîné.
« Cela fait tellement partie de notre existence quotidienne, »
reprit-il,
que nous avons du mal, le peuple indivisible et moi, à imaginer que quelqu'un puisse s'être déplacé à travers les glaces sans savoir une chose pareille. »
Le peuple indivisible ? Demanda Abétik.
Les Chitchatuks. Le mot signifie indivisible, ou peut-être plus littéralement, impossible à rendre plus parfait.
Aînée était en train de sourire.
Je ne me sens pas offensée, dit-elle. J'aimerais seulement savoir le fin mot de l'histoire. Qui a creusé les galeries ?
Les spectres, suggérai-je avant que le vieux prêtre eût ouvert la bouche. Il tourna son sourire dans ma direction.
« Précisément, mon cher Roll, précisément. »
Aîné fronça les sourcils.
« Je sais qu'ils ont des griffes formidables, mais même leurs adultes ne peuvent pas creuser de si longs boyaux dans une glace si compacte. C'est tout à fait... »
Je secouai la tête. « Je ne crois pas que nous ayons eu l'occasion de rencontrer un adulte. »«
Exactement. »
murmura le vieil homme en hochant la tête comme il faisait souvent.
« Roll a raison, ma chère. Les Chitchatuks chassent les jeunes les plus petits chaque fois qu'ils le peuvent, et les jeunes les plus gros chassent les Chitchatuks quand ils en ont l'occasion. Mais les uns et les autres ne sont que des formes larvaires de la créature, au stade où elle doit parcourir la surface en cherchant à se nourrir. » Au bout de 3 révolutions orbitales de Sol Draconi Septem,
c'est-à-dire 29 années standard,
murmura Abétik.
Tout à fait,
approuva le vieillard en hochant la tête.
Au bout de 3 années locales, ou 29 standards, le spectre immature, le petit, bien que ce terme s'applique plutôt à des mammifères, subit une métamorphose et devient un vrai spectre, capable de tarauder la glace à la vitesse approximative de 20 km à l'heure. Il mesure alors environ 15 mètres de long et... vous allez peut-être en rencontrer au cours de votre expédition vers le nord.
Je me raclai la gorge. Je croyais que Kushiat et Shiaku venaient de nous expliquer qu'il n'y avait pas de galerie reliant ce secteur au tunnel du Distrance à 28 km au nord.
Ah, c'est vrai,
fit le père Glaucus. Il reprit sa conversation avec les Chitchatuks dans leur langage cliquetant. Lorsque Kushiat lui répondit, le père aveugle traduisit.
Cela représente approximativement 25 km en surface, c'est-à-dire une distance beaucoup plus grande que le peuple indivisible n'aime en parcourir d'un trait. Et Aishakut me fait gentiment remarquer que ce secteur grouille de spectres, aussi bien jeunes qu'adultes, que le peuple indivisible alimente depuis des siècles en crânes dont ils se font des colliers. Il me signale aussi que nous sommes dans le mois où les tempêtes d'été font rage à la surface. Mais pour vous, mes amis, les Chitchatuks sont prêts à entreprendre le voyage.
Je secouai la tête. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'air respirable à la surface, n'est-ce pas ?
Je veux dire qu'ils ont tout le matériel nécessaire pour s'engager dans l'aventure, mon fils.
Aishakut lança vivement une série de syllabes sonores. Kushiat ajouta un commentaire plus tempéré.
Ils sont prêts à partir quand vous voudrez, mes amis. Kushiat me dit qu'il faudra 2 périodes de sommeil et 3 de marche pour arriver à votre radeau. Ensuite, vous vous dirigerez vers le nord jusqu'à ce que les boyaux prennent fin.
Le vieux prêtre se tut et détourna un long moment la tête.
Qu'y a-t-il ?
Demanda Aînée, inquiète. Le père Glaucus nous fit de nouveau face avec un sourire forcé aux lèvres. Il passa ses longs doigts osseux dans sa barbe.
« Vous allez me manquer, » dit-il. « Il y a si longtemps que... Ah, je dois devenir sénile. Venez, nous allons vous aider à préparer vos affaires. Vous allez d'abord prendre un solide petit déjeuner et nous agrémenterons vos provisions à l'aide de quelques petites choses que je dois avoir dans mes réserves. »
Les adieux ne furent pas faciles. La seule pensée de ce vieillard, tout seul au milieu des ténèbres glacées, tenant à distance une armée de spectres et un glacier planétaire, avec rien d'autre que quelques lampes allumées, me causait une douleur dans la poitrine. Aînée pleura. Lorsque Abétik s'avança pour lui serrer la main,
Le père Glaucus étreignit fortement l'androïde en lui disant
« Votre heure viendra bientôt, Ashbétique. Je le sens. Je le sens très profondément. »
L'androïde ne répondit pas. Plus tard, cependant, tandis que nous suivions les Chitchatuks dans les profondeurs du glacier, je vis que l'homme bleu se retournait vers la haute silhouette qui se découpait dans la lumière pour la regarder une dernière fois avant la courbe de la galerie qui nous fit perdre de vue la lumière, l'immeuble et son occupant. Il nous fallut effectivement 3 périodes de marche et 2 de sommeil pour atteindre l'endroit où la galerie se transformait en glissière, débouchant dans la crevasse surplombant l'endroit où nous avions laissé le radeau. Je ne voyais pas comment nous allions pouvoir transporter les troncs dans le dédale des galeries de glace, mais les Chitchatuks, cette fois-ci, ne perdirent pas une seule seconde à admirer le radeau gelé. Ils se mirent aussitôt au travail, et les troncs furent désassemblés en un tournement. À sa première visite, le groupe avait longuement admiré notre hache. Je leur montrai comment on s'en servait en prenant plusieurs troncs, l'un après l'autre, pour les raccourcir en segments d'1,50 m de long. Avec ma torche laser, qui commençait à faiblir, Abétik et Aîné firent la même chose de l'autre côté de notre chaîne d'assemblage improvisée, pendant que les Chitchatuks raclaient la glace qui menaçait de faire couler le radeau, défaisaient ou tranchaient les nœuds et amenaient les troncs à l'endroit où nous les débitions pour les entasser sur la glace. Lorsque tout fut fini, le foyer de pierre, les lanternes supplémentaires et la glace demeurèrent seuls sur la petite plateforme, tandis que le bois s'entassait le long des parois de la galerie, comme si nous avions fait des provisions pour la cheminée en vue de l'année à venir. Cette pensée m'amusa au début, mais je me rendis compte qu'une telle source de combustible devait représenter une réelle richesse aux yeux des Chitchatuks. Il y avait là assez de lumière et de chaleur en puissance pour faire fuir les spectres pendant un bon moment. Je voyais maintenant notre radeau désassemblé d'une manière différente. Si nous n'arrivions pas à franchir le second portail... Aînée servait à présent d'interprète. Elle annonça à Kushiat que nous allions leur laisser la hache, le foyer de pierre et différents équipements. Les visages, derrière leurs rideaux de dents de spectre, parurent stupéfiés par la nouvelle. Ils s'assemblèrent autour de nous pour nous donner de grandes claques dans le dos à nous couper le souffle. Même Aishakut, malgré son mauvais caractère, nous manifesta avec rudesse une certaine affection. Chaque membre du groupe attacha sur son dos 3 ou 4 rondins. Abétik, Aîné et moi nous les imitâmes dans la mesure de nos possibilités. La charge pesait aussi lourd que du béton sous la gravité de cette planète. Puis nous commençâmes la lente ascension en direction de la surface, du vide, des tempêtes et des spectres. Chapitre 47. Il faut moins d'une minute à la sonde neurale de Ramadant Nemes pour achever son exploration du cerveau du père Glaucus. En une combinaison d'images visuelles, de langage et de données chimio-synaptiques brutes, Nemes a un tableau aussi complet de la visite d'Aîné à la Cité des Glaces qu'on peut en obtenir en dehors d'un désassemblage neurologique complet. Elle retire le microfilament et se donne quelques secondes pour étudier les informations recueillies. Aîné, son compagnon humain Roll et l'androïde sont partis il y a 3 jours standard et demi, mais ils ont dû passer au moins l'une de ces journées à démanteler leur radeau. Le second portail d'Istrance se trouve à près de 30 km au nord, et les Chitchatuks ont accepté de les conduire à la surface, où les conditions sont dangereuses et la progression lente. Nemes comprend qu'il y a de fortes chances pour que la fillette n'ait pas survécu à l'expédition. Elle a lu, dans l'esprit du vieux prêtre, par quels moyens rudimentaires le peuple indivisible s'efforce d'affronter les conditions qui règnent à la surface. Elle esquisse un petit sourire. Elle n'a pas l'intention de laisser quoi que ce soit au hasard. Le père Glaucus gémit tout doucement. Un genou sur la poitrine du prêtre, Nemes s'interrompt une seconde. La sonde neurale n'a pas fait grand mal. Avec un Medipack un peu élaboré, elle pourrait aisément guérir toute trace du passage du filament entre l'œil et le cerveau du vieil homme.
mais il était déjà aveugle quand elle est arrivée de toute manière.
Elle évalue la situation. La rencontre d'un prêtre de la Pax sur cette planète désolée ne faisait pas partie de l'équation initiale.
Tandis que le père Glaucus commence à remuer, ses mains osseuses devant son visage, elle établit un bilan.
Laisser le prêtre en vie ne pose pas beaucoup de problèmes. Ce n'est qu'un missionnaire oublié en exil, destiné à mourir ici.
D'un autre côté, ne pas le laisser vivre ne comporte aucun risque du tout. L'équation est on ne peut plus simple.
« Qui êtes-vous ? »
gémit le prêtre tandis que Némès le soulève comme une plume. Elle le porte dans ses bras, de la cuisine à la salle à manger, puis dans la bibliothèque au mur couvert de rayonnage, où brûle un agréable feu de tablettes combustibles. Elle passe par le couloir pour gagner le palier de l'immeuble, où brûlent, même là, des lanternes destinées à décourager les spectres.
« Qui êtes-vous ? »
répète le vieux prêtre en gigotant comme un enfant de 2 ans dans les bras d'un adulte.
« Pourquoi faites-vous tout ça ? »
demande-t-il tandis que Némès s'arrête devant la cage d'ascenseur, ouvre la double porte de plastacier d'un coup de pied et le tient un dernier instant à bout de bras. Un violent courant d'air glacé descend de la surface sur une distance de 200 mètres. Cela fait un bruit déchirant, comme si la planète gémissait. À la dernière seconde, le père Glaucus se rend compte exactement de ce qui va se passer.
« Seigneur Dieu, tout Jésus !»
murmure-t-il entre ses dents tremblantes.
« Saint Éliard !»
Némès le laisse tomber dans la cage d'ascenseur et fait volte-face, à peine surprise de n'entendre aucun cri se répercuter derrière elle. Elle prend l'escalier gelé qui mène à la surface, gravissant les marches par 4 ou 5 sous la gravité écrasante. Arrivée en haut, il faut qu'elle se creuse un chemin à travers la cascade de glace d'atmosphère gelée qui a glissé de 5 ou 6 étages. Debout sur la terrasse de l'immeuble, sous le ciel noir du vide, avec la tempête catabatique qui lui souffle des cristaux de glace à la figure, elle active son champ de déphasage et part au petit trot sur la glace en direction du vaisseau de descente. Il y a 3 jeunes spectres qui tournent autour du vaisseau. En un clin d'œil, Némès identifie les créatures. Non mammifères. La fourrure blanche, en réalité, est formée d'écailles tubulaires capables d'emmagasiner l'atmosphère gazeuse en servant à retenir la chaleur corporelle. Les yeux fonctionnent à l'infrarouge et les poumons ont une capacité redondante qui leur permet de rester 12 heures ou plus sans oxygène. Chaque bête fait plus de 5 mètres de long. Les pattes antérieures sont particulièrement puissantes, les pattes postérieures sont faites pour creuser ou éventrer. Elles bougent avec une rapidité étonnante. Les 3 créatures se tournent vers Némès quand elles s'approchent. Vues contre le fond noir du ciel, elles ressemblent plus à d'immenses belettes ou à des iguanes qu'à n'importe quoi d'autre. Leur corps élancé se déplace à une vitesse aveuglante. Némès ignorerait bien ces spectres, mais s'ils attaquaient le vaisseau, cela pourrait causer des complications au décollage. Elle passe en mode accéléré. Les spectres semblent se figer en pleine action. Les cristaux de glace demeurent en suspens contre le ciel noir. Elle travaille efficacement, en se servant uniquement de sa main droite et de la lame, coupante comme du diamant, de son avant-bras déphasé. Elle dépèce les 3 animaux. Ce faisant, 2 choses la surprennent à un certain degré. Chaque spectre possède 3 gros cœurs à 5 cavités, alors qu'un seul semble leur suffire pour continuer à se battre. Chaque bête porte un collier de petits crânes. Quand elle a fini son travail et repasse en mode normal, au moment même où les 3 spectres s'écroulent sur la glace comme d'immenses sacs remplis de déchets organiques, Némès s'accorde quelques instants pour examiner les colliers. Les crânes, de petite taille, sont bien humains et appartenaient probablement à des enfants. Intéressant. Elle monte à bord du vaisseau et fait route vers le nord en utilisant les propulseurs à réaction car les moignons d'ailes n'ont pas de support de sustentation dans ce vide quasi absolu. Ses radars de profondeur sondent la glace,
jusqu'à ce que le fleuve soit visible. Au-dessus du niveau de l'eau, il y a plusieurs centaines de kilomètres de galeries. Les spectres ont été très actifs dans le secteur. Sur l'écran radar s'affiche l'arche de métal du portail d'Istrance, comme une lumière trouant un épais brouillard. L'instrument n'est pas aussi efficace quand il s'agit de repérer des êtres vivants qui se déplacent sous la glace. Différents échos montrent la trace de spectres adultes en train de creuser leur tunnel dans le glacier atmosphérique, mais ils se trouvent à plusieurs kilomètres au nord et à l'est. Elle pose le vaisseau juste en amont du portail et explore la surface ridée de Sastrugi à la recherche d'une entrée de boyaux. Dès qu'elle en trouve une, elle s'avance sur le glacier au petit trot et laisse tomber son bouclier biomorphe dès que la pression monte au-dessus de 0,2 kg par centimètre carré et que la température est supérieure à moins 30. Le boyau est déroutant, mais elle s'oriente par rapport à la grande masse de métal du portail à 300 mètres sous elle, et il ne lui faut pas plus d'une heure pour arriver au niveau du fleuve. L'obscurité ici est si totale qu'il n'est pas question d'utiliser les infrarouges ou un amplificateur de lumière. Et elle n'a pas apporté de lampe, mais elle ouvre la bouche et un rayon de lumière jaune intense illumine le tunnel et la brume de glace devant elle. Elle les entend arriver bien avant que la faible lueur des braises soit visible dans la galerie descendante. Elle éteint sa propre lumière, se tapit au milieu du tunnel et attend. Quand ils apparaissent au tournant, ils ressemblent plus à un troupeau de spectres minuscules qu'à un groupe d'êtres humains, mais elle les reconnaît d'après les souvenirs captés dans la mémoire du père Glaucus. C'est la horde de Chichatuk de Kushiat. Ils s'arrêtent, surpris à la vue de cette femme seule, sans fourrure ni isolation extérieure, debout au milieu d'un tunnel de glace. Kushiat s'avance et parle rapidement.
Le peuple indivisible salue la guerrière chasseresse qui a choisi de voyager à la lueur de sa seule indivisibilité presque parfaite. Si l'étrangère a besoin de chaleur, nourriture, armes ou amitié, qu'elle parle, car notre horde aime et respecte ceux qui marchent debout et suivent la voie des premiers.
Dans la langue des Chichatuk, qu'elle tient du vieux prêtre, Radamant Némès répond.
Je suis à la recherche de mes amis aînés, Rol et l'homme bleu. Sont-ils déjà passés par l'arche de métal?
Les 23 Chichatuk échangent des commentaires sur la connaissance de leur langage manifesté par cette étrange femme. Ils en concluent qu'elle doit être une amie ou parente de Glaucus, car elle s'exprime exactement dans le même dialecte que le vieux prêtre. Mais un soupçon demeure dans l'esprit de Kushiat lorsqu'il répond
« Ils sont passés sous la glace et ont disparu à travers l'arche après nous avoir souhaité la prospérité et distribué des présents. Nous souhaitons également la prospérité et offrons des présents à l'étrangère à l'indivisibilité presque parfaite, qui souhaite peut-être voyager sur la rivière magique à la suite de ses amis. »
Pas tout de suite, fait Radamant Némès avec son sourire figé.
Cette rencontre la place devant le même dilemme que face au vieux prêtre. Elle fait un pas en avant. Les 23 Chichatuk poussent une exclamation de ravissement enfantin lorsqu'elle se déphase en une masse tourbillonnante de vif argent. Elle sait que la lueur de leur braise, reflétée par 1000 facettes de glace, doit maintenant être renvoyée par sa propre surface. Elle passe en mode accéléré et massacre les 23 Chichatuk, hommes et femmes, sans perdre une seule seconde de mouvement ou d'effort. Revenant en mode normal, elle se penche sur le corps le plus proche et lance une sonde neurale au coin de l'œil du mort. La structure neurale du cerveau est en train de se désintégrer rapidement en raison du manque de sang et d'oxygène, créant les vagues habituelles d'hallucinations et de créativité désordonnées communes à l'extinction de ce genre de réseau, qu'il soit humain ou IA. Mais au milieu des synaptiques et rétrospectives images de naissance propres au passage de vie à trépas, émergeant d'un long tunnel à la chaleur et à la lumière, elle saisit la représentation faiblissante de l'enfant, de l'homme et de l'androïde en train de pousser à l'eau le radeau rudimentaire reconstitué pour passer sous la voûte basse de glace de l'arche gelée.
Zut,
s'exclame radamante Némès. Elle abandonne les cadavres à l'endroit où ils sont tombés les uns sur les autres dans la galerie sans lumière, puis s'élance au trot pour parcourir le dernier kilomètre qui la sépare du fleuve. Il y a peu d'eau libre à cet endroit, et le portail d'Istrans n'est qu'une boucle de métal émergeant des glaces. Un brouillard froid l'entoure tandis qu'elle s'avance sur la plateforme gelée, où des empreintes creusées par la chaleur indiquent l'endroit où les Chitchatuks se sont assemblés pour dire adieu à leurs amis. Némès voudrait interroger le Distrans, mais il faut, pour l'atteindre, qu'elle creuse à travers plusieurs mètres de glace ou qu'elle grimpe sur la voûte de la partie émergée du portail, une vingtaine de mètres plus haut. Elle déphase uniquement ses mains et ses pieds et commence à grimper en creusant des appuis profonds à mesure qu'elle progresse. Suspendue la tête en bas sur la courbe de l'arche, elle pose la main sur un panneau et attend que le métal gelé se rétracte, comme une peau morte qui se retire d'une plaie. Elle lance alors des microfilaments et une sonde à fibre optique qui entre en contact avec le module d'interface pour la faire communiquer avec le cœur du Distrans. Un murmure affectant directement son nerf auditif lui apprend que les trois secteurs de la conscience sont en train de l'examiner et de discuter des événements. Durant les siècles de l'hégémonie humaine, tout le monde pensait qu'il y avait des centaines de milliers, peut-être des millions de portails Distrans du technocentre, allant de la plus petite porte individuelle au portail géant du Tétis ou à ceux, encore plus énormes, situés dans l'espace. Mais tout le monde se trompait. Il n'existe qu'un seul Distrans. Et il est partout à la fois. Par l'entremise du module d'interface, Radamante Némès interroge le cœur pulsant, tiède et vivant du Distrans à travers son camouflage de métal, son électronique et son bouclier de fusion. Durant des siècles, les humains qui se déplaçaient par saut Distrans dans tout leur être, plus d'un milliard de sauts à chaque seconde, au plus haut du trafic selon les estimations d'un analyste, avaient servi les ultimistes, ces éléments du technocentre, dont l'existence était vouée à créer une IA de type encore plus avancé, l'intelligence ultime, dont la conscience finirait par absorber la galaxie et peut-être l'univers tout entier. Chaque fois qu'un humain utilisait le Distrans ou les infosphères connectées au Mégatrans, à la grande époque du Retz, il ajoutait, par ses synapses et son ADN, à la puissance de traitement du réseau neural transrétien que le centre avait constitué. Ce dernier ne se souciait nullement du besoin viscéral que l'humanité éprouvait à se déplacer, à voyager instantanément sans dépenser la moindre énergie. Le réseau Distrans était l'appât idéal pour mettre à profit les milliards de cerveaux organiques primitifs constituant la race humaine. Aujourd'hui, débusqué par Mayna Gladstone et ses damnés pèlerins d'Hyperion, de sa cachette dans les interstices de l'espace-temps, attaqué dans ses derniers retranchements par le bâton de la mort qu'il a lui-même aidé les humains à fabriquer, le technocentre est privé de toutes ses connexions mégatrans par des puissances qui résident au-delà des cercles connus de la mégasphère, et toutes les facettes de l'unique et omniprésent portail Distrans sont devenues mortes et inutilisables. Toutes sauf celle-ci, qui vient de fonctionner. Le module d'interface rapporte à Némès ce que les secteurs et elle savaient déjà. La facette vient d'être activée par quelque chose d'autre, venu de quelque part ailleurs. Le portail a gardé dans sa mémoire bulle de neutrinos modulés la trace de ses points de connexion dans l'espace-temps réel. Et Némès a accès à cette mémoire. Aîné et ses amis se sont distransportés sur Comriyad. Némès fait face à un nouveau dilemme. Elle peut retourner avec le vaisseau de descente jusqu'au Raphaël et gagner le système de Comriyad en quelques minutes. Mais elle devra, pour cela, interrompre le cycle de résurrection de deux Soya et des autres et fournir une explication plausible pour cette modification de leur plan. En outre, Comriyad est un système que la Pax a mis officiellement en quarantaine. Il figure sur la liste des secteurs tombés aux mains des extros et fait partie de l'un des premiers projets de justice et paix. Comme dans le cas d'Hébron,
ni la Pax ni ses conseillers ne peuvent permettre à De Soya et à ses hommes de contempler la vérité que représente la planète. Enfin, Némès n'ignore pas que le Tétis ne coule que sur quelques kilomètres, à travers un désert de rocailles rouges de l'hémisphère sud, où il traverse la grande mosquée de Meshed. Si elle laisse accomplir le cycle de résurrection, De Soya et les deux autres ne seront pas opérationnels durant 3 jours standards, ce qui laissera à Aéné et à son radeau de mécréants le temps de franchir toute la section locale du Tétis. Une fois de plus, la solution semble consister à éliminer De Soya et les autres pour continuer toute seule. Mais ces instructions sont d'éviter d'avoir recours à une telle extrémité, sauf en cas d'absolue nécessité. La participation de De Soya à la capture finale de celle qui enseigne, Aéné la menace, a été enregistrée dans de trop nombreuses simulations et figure dans trop de recherches prévisionnelles de secteurs pour être ignorée sans danger. Le tissu de l'espace-temps ressemble beaucoup à l'une des délicates et complexes tapisseries du Vatican, se dit-elle. Et celle qui tire inconsidérément sur un fil risque de voir l'ouvrage entier se désagréger sous ses doigts. Elle se donne plusieurs secondes de réflexion, puis infiltre un filament de réseau neural au plus profond des synapses du module d'interface. Tous les itinéraires d'activation du Distrans, passés et présents, sont là. Le souvenir d'Aéné et de ses complices est une configuration provisoire dans la mémoire bulle, mais Némès retrouve sans peine les prolongements futurs et passés. Il n'y a que 2 autres possibilités en aval dans l'avenir prévisible. Après comme Riyad, le quelque chose d'autre a structuré les portails de manière à ce qu'ils ne s'ouvrent que sur le bosquet de Dieu. Et ensuite, elle étouffe une exclamation et retire son microfilament avant que la révélation de la dernière destination ne la brûle. C'est celle-là, de toute évidence, qu'a choisie Aéné. Ou plus exactement, c'est celle-là qu'a choisi le quelque chose d'autre qui lui ouvre le portail. Et cet endroit est inaccessible aussi bien à la Pax qu'aux 3 secteurs. Mais la synchronisation est possible. Radamante Némès a maintenant la possibilité de laisser vivre De Soya et les autres tout en arrivant avant Aéné dans le système du bosquet de Dieu. Elle a déjà songé à une explication plausible. En comptant 2 jours pour la traversée de Qom Riyad et 1 jour de navigation de plus sur le bosquet de Dieu, elle aura encore le temps d'intercepter le radeau et d'accomplir le nécessaire avant la résurrection de De Soya. Il lui restera même 1 heure ou 2 pour faire un peu de ménage, de sorte que lorsqu'elle se posera sur le bosquet de Dieu avec le prêtre-capitaine et les gardes suisses, il n'y aura plus aucune trace visible et tout indiquera que l'enfant et ses complices ont continué leur chemin sur le fleuve à travers le portail Distrans. Elle retire sa sonde, repart au trot à la surface, regagne le Raphaël avec le vaisseau de descente et efface soigneusement dans l'ordinateur de bord toute trace de son réveil et de son utilisation du vaisseau. Elle implante un faux message dans la mémoire de l'ordinateur, puis se glisse dans la crèche de résurrection pour s'endormir. Quand ils étaient dans le système de Passem, elle a déconnecté la crèche du système de résurrection et recâblé les moniteurs pour qu'ils simulent leur activité habituelle. Allongée dans le sarcophage bourdonnant, elle ferme les yeux. Ses passages répétés en mode accéléré et l'utilisation intensive du déphasage l'ont fatiguée. Elle est heureuse du répit qui s'offre à elle en attendant que De Soya et les 2 autres ressuscitent. Avec un sourire, elle se souvient soudain d'un détail. Elle active un gant en mode déphasage et touche un endroit sur sa poitrine, entre ses seins, pour y rougir la peau et la remodeler de manière à simuler la présence d'un cruciforme. Elle ne porte pas le parasite, naturellement. Mais ses compagnons de bord pourraient la voir nue par inadvertance et elle n'a nullement l'intention de tout gâcher à cause d'un stupide détail. Le Raphaël poursuit sa course en orbite autour du monde glacé de Sol Draconi Septem, tandis que 3 de ses membres gisent dans leur sarcophage de crèche et que les moniteurs enregistrent leur long processus de retour de la mort. La 4e passagère dort tranquillement d'un sommeil sans rêve.